Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, bienvenue en direct, une émission préparée par Marguerite Caton, Corentin Monsoy, Maïder Gérard et Margot Léridon, réalisée ce matin par Benjamin Hu et à la technique Youtou Aklopez. Dernier temps de notre série consacrée au pouvoir des villes, le nouvel empire des villes, c'est la thématique de notre semaine, comme toujours, en 4 épisodes. Lundi, avec Florian Delorme, nous avons observé l'urbanisation croissante du monde. Mardi, il était question du front des villes américaines pour la protection de l'environnement. Mercredi, hier, de participation démocratique et d'utopie municipale. Mais aujourd'hui, place aux enjeux de prestige culturel et économique de Marseille à Dubaï, rayonner pour mieux dominer, c'est notre sujet jusqu'à midi.
C'est une expérience à laquelle tout le monde peut prendre goût, que vous soyez d'ici, que vous soyez un touriste ou un expatrié. Je suis certain que vous découvrirez quelque chose que vous ignoriez du Qatar ou de sa culture.
Monsieur le Président, chers amis, vous m'avez fait l'honneur de m'accueillir dans la famille olympique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter dans la grande famille des Parisiens. C'est une famille qui appartient au monde, comme la vôtre. Une famille qui vous attend.
Nous nous assurons que l'impact de ces Jeux ne durera pas juste l'été, mais durera toujours. Il y aura un héritage physique, bien sûr, avec ce parc olympique stupéfiant. Il y aura un héritage économique, avec de nouveaux contrats négociés après ces Jeux. Il y aura un héritage du volontariat, afin que, si la population veut jouer un plus grand rôle dans la société, nous puissions lui donner une chance.
Grands événements sportifs, culturels, congrès internationaux, musées, projets architecturaux. De Paris à New York, en passant par Londres et Dubaï, les grandes villes du monde rivalisent de programmes et d'idées. Tous les moyens sont bons pour attirer les regards et surtout attirer les visiteurs. Touristes, investisseurs, créateurs, tout un monde qu'il faut sans cesse surprendre, combler, accueillir, de peur qu'ils ne préfèrent une concurrente. Si les cités contemporaines n'ont ni armes ni soldats, elles n'en ont pas moins de véritables stratégies de puissance et une diplomatie au cœur desquelles la culture joue un rôle central. Car l'objectif est bien de rayonner pour attirer le maximum de richesses dans une compétition mondiale féroce. Alors quelles sont les stratégies des villes pour attirer les élites économiques et culturelles de la planète? Jusqu'où ira cette compétition mondiale entre grandes métropoles qui concentrent déjà une grande partie des activités humaines? Quelles sont vraiment les retombées des grands événements culturels et sportifs? Et enfin, à quel prix pour les habitants? Eh bien, deux invités pour répondre à toutes ces questions. Nicolas Maizetti, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, chercheur post-doctorant au laboratoire technique, territoire et société, le LATS, à l'université Paris-Est. Vous êtes l'auteur de Marseille, Ville-Monde, c'est paru aux éditions Cartala 2017 et vous vous interrogez précisément dans cet ouvrage sur la stratégie de Marseille dans cette grande compétition mondiale entre villes. Et à vos côtés, Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous géographe, directeur de recherche au CNRS, rattaché au laboratoire LEMAM, l'étude sur le monde arabe et la Méditerranée. Vous connaissez très bien en particulier les villes du Golfe, laboratoire rattaché à l'université de Tours. Alors, on l'a entendu dans ce petit montage sonore réalisé par Benjamin Hu, un responsable qatari chargé des opérations pour les musées, Anne Hidalgo, la maire de Paris, que vous avez dû reconnaître, elle parlait en espagnol, et David Cameron, l'ancien premier ministre britannique. Nicolas Maizetti, aujourd'hui, pour un maire ou pour un Premier ministre, ce n'est pas possible de ne pas avoir comme programme pour les amener à venir, eh bien, d'accueillir une grande compétition sportive, d'inaugurer un nouveau musée, un bâtiment d'un architecte prestigieux ou bien d'organiser un sommet international. C'est un programme qui est presque obligatoire.
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un impératif, d'une injonction à l'internationalisation pour certaines, pas toutes sans doute, hein, mais pour certaines grandes villes, grandes métropoles du monde. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ces villes, ces grandes métropoles font un peu finalement figure de champions nationaux pour certains États. Donc ça peut être effectivement Paris pour la France dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, Londres, toutes ces grandes villes, les Global Cities comme on les appelle, hein, Paris, Londres, Tokyo, New York et d'autres sans doute dans les Suds, mais qui effectivement auraient remplacé cette ancienne compétition entre les États. Et finalement, aujourd'hui, il y aurait, on pourrait peut-être y revenir, hein, une autre forme de compétition entre certains territoires, certains espaces métropolitains, pour effectivement attirer des grands événements, non pas des grands événements pour des grands événements, mais avec un objectif, hein, c'est plutôt un moyen ou une ressource pour effectivement accroître leur croissance économique voilà, locale. Et de ce point de vue-là, on peut la dater, hein, cette compétition, elle n'a pas toujours été là, mais il y a aujourd'hui effectivement quelque chose qui ressort de cet impératif, de cette injonction à l'internationalisation et avec ce tournant événementiel, hein, des politiques internationales des grandes métropoles qu'on peut aussi dater de la fin des années 80, début des années 90.
Marc Laverne, vous avez l'impression, vous aussi, que la compétition entre grandes villes, elle aurait presque pris le dessus par rapport à la compétition entre États, que ce serait un déplacement presque des rapports de force dans le monde.
Oui, il me semble qu'il y a une compétition entre les villes elles-mêmes, même au sein des États. Hein, mais je crois que les villes ont une attractivité particulière, je dirais, parce qu'elles ont des aéroports, parce qu'elles ont aussi les moyens, peut-être d'un point de vue juridique, de développer leur propre politique. Est-ce qu'elles ont des ressources financières propres? Est-ce qu'elles ont vraiment une identité qu'elles cherchent à définir ou à développer au détriment éventuellement d'autres villes au sein du même État? On peut se poser la question dans le cas d'États assez centralisés. Est-ce que c'est Paris qui est, et c'est une question vraiment qui est à la manœuvre, je dirais, pour obtenir les Jeux Olympiques, ou est-ce que c'est la France qui essaye de se promouvoir? Quel est le départ entre l'initiative de la municipalité, des élus, de la population d'une ville, et puis celle des dirigeants d'un pays? Ça, j'avoue que la situation est différente selon les cas.
Mais précisément, Marc Laverne, sur cette question des Jeux Olympiques que Paris a donc remporté pour 2024, concrètement, qu'est-ce que ces JO vont pouvoir rapporter à Paris qu'elles ne possèdent déjà en termes de rayonnement, d'attractivité? C'est une ville qui concentre déjà beaucoup d'atouts en termes de patrimoine, en termes économiques, en termes d'attractivité culturelle déjà. Pourquoi être allé chercher en plus les JO?
Oui, c'est vraiment une question importante, parce que ça peut être pour maximiser encore l'image de la ville, ou ça peut être pour la modifier, ça peut être pour attirer les gens avec par exemple des événements sportifs ou culturels, et puis essayer de transformer l'essai, si on peut dire, c'est-à-dire après d'obtenir que des gens viennent investir, aient confiance dans cette ville et changer l'image un peu traditionnelle, classique, respectée d'une ville culturelle en quelque chose de plus dynamique, par exemple.
Donner une corde de plus à son arc, si on comprend bien. Nicolas,
oui,
Maizetti.
Oui, et puis il y a, je pense aussi, quelque chose qui relève de stratégie de légitimation des maires. Vous avez dit effectivement, est-ce que pour les maires c'est obligatoire? Et je pense que effectivement, pour un certain nombre de maires, ça s'inscrit, ces candidatures un peu tout azimut à des grands événements, dans une volonté aussi de montrer leur capacité de faire dans un moment où effectivement les compétences des villes, des maires se réduisent, leur autonomie financière aussi, et de ce point de vue-là, organiser des grands événements, en particulier culturels ou sportifs, participe de montrer, de manifester l'exercice du pouvoir encore qui peut continuer à exister. Et je pense que dans le cas de Paris, c'était très important. C'était d'abord une initiative de Bertrand Delanoë qui a multiplié les candidatures. Anne Hidalgo était un petit peu sur la réserve suite à l'échec aux Jeux Olympiques précédents qui avait été attribué à Londres. Et du coup, il a fallu aussi la convaincre. Et je pense que d'être le maire d'une ville qui organise les Jeux Olympiques, ou en tout cas d'obtenir l'organisation, parce qu'on ne sait pas si, enfin voilà, il y a des alternances aussi, et ça fait partie, je pense, maintenant de la palette des maires dans leur exercice du pouvoir, en fait, dans leur stratégie de légitimation.
Ah, vous parlez de palette, justement, j'allais vous demander quels sont, à part l'organisation de grands événements sportifs, eh bien, quels sont en fait les répertoires d'action des grandes villes pour attirer, et on voit que certaines essayent aussi de chercher à la marge des stratégies de distinction que elles seules pourront proposer, hein, Marc Laverne.
Oui, il y a l'effet, on peut aussi faire des investissements. Je pense que tout ça, ça serait dans le cadre de la mondialisation. C'est une compétition accrue entre non plus des États qui sont finalement un petit peu marginalisés, mais des villes, c'est-à-dire des communautés humaines qui ont une identité propre qu'elles essayent de promouvoir avec des moyens. Il faut investir aussi. À Paris, par exemple, on développe des équipements indépendamment de tout événement. Des salles de spectacle, des salles d'opéra, par exemple, des choses comme ça, qui pourront servir à augmenter l'attraction de la ville. Bon, je crois qu'on cherche aussi à obtenir de nouveaux marchés, c'est-à-dire de faire venir une clientèle qui ne venait pas dans ces villes. On a actuellement, par exemple, l'Asie, l'Extrême-Orient, qui est très présent et très demandeur, parce qu'on a de nouvelles puissances qui ont des moyens financiers, qui ont envie de découvrir le monde, donc on crée des événements qui vont les attirer en compétition avec d'autres villes européennes ou au niveau mondial.
Vous avez parlé des musées, c'est vrai que la culture, elle joue un rôle particulièrement important, particulièrement central dans cette stratégie d'attractivité. Ça peut même paraître étonnant, est-ce qu'aujourd'hui la culture est un facteur d'attractivité encore plus important que par exemple posséder une sorte de petite Silicon Valley ou une zone favorable aux startups, Nicolas Maizetti?
C'est vrai que la culture a un avantage considérable, c'est qu'il est très difficile de s'y opposer, premièrement à la culture et aux événements culturels et en général à des spectacles, à des festivals. Ça c'est le premier point. Et puis aussi, et c'est assez lié, c'est que effectivement, je parlais aussi de mise en scène du pouvoir local. Et je pense que pour un maire, c'est quand même plus rentable médiatiquement et politiquement d'inaugurer un musée que d'inaugurer un centre de gestion des déchets ou un réseau d'eau et d'assainissement ou que sais-je. Et donc de ce point de vue-là, la culture, ça peut, ça effectivement permet de désamorcer un certain nombre de critiques qui pourraient être portées sur des politiques qui en fait ont un agenda économique et politique quand même assez particulier, qui est celui du développement économique. Dans la littérature, on parle d'une politique entrepreneuriale, c'est-à-dire alignée finalement sur les intérêts économiques des plus grands acteurs, les plus grandes entreprises, et la culture de ce point de vue-là, elle est jamais dans le cadre de l'organisation de grands événements internationaux dans les villes, elle est jamais poursuivie pour elle-même, mais elle est toujours un instrument, une ressource. Moi, j'ai pu parler d'instrumentalisation même économique de la culture dans le cadre des grands événements, en particulier à Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, en 2013, où finalement l'événement et la culture servaient à bien d'autres choses, servaient à refabriquer la façade maritime de Marseille, à profiter de ce foncier disponible pour y installer un centre commercial, une salle de spectacle, un musée, d'autres bâtiments d'ailleurs au destin un peu incertain, à aussi participer au réaménagement, à la requalification d'une partie du centre-ville, et donc à donner une nouvelle image, à rompre avec la mauvaise réputation. Tous ces éléments-là, en fait, font partie, en premier finalement, de la justification de la mise en œuvre de la capitale européenne de la culture. Et donc la culture, finalement, elle est très secondaire. La culture au sens de pratique culturelle, de spectacle, est finalement assez secondaire dans ces événements. On va pas tellement parler des contenus finalement culturels. Alors bien sûr, il peut y avoir des formes d'appropriation, des publics qui n'étaient pas habitués à aller au musée ou au spectacle, qui peuvent être enrôlés dans le cadre de ces événements. Mais finalement, il me semble que c'était assez secondaire dans l'esprit de ceux qui l'ont initié. Et en l'occurrence à Marseille, je ne sais pas si on va y revenir, mais qui a imaginé la capitale européenne de la culture, c'est la Chambre de commerce. C'est quand même pas neutre, c'est pas anodin.
Précisément, Nicolas Maizetti, sur Marseille, je vous propose d'écouter Jean-Claude Gaudin, un maire qui était particulièrement fier de présenter en 2008 ce projet culturel pour sa ville.
J'annonce que la ville capitale européenne de la culture 2013 sera Marseille.
C'est une ville qui à la fois est tournée résolument vers le bassin méditerranéen, où nous avons que des liens d'amitié avec les trois pays du Maghreb et bien au-delà, et en même temps un trait d'union pour l'Europe. C'est une chance pour Marseille, c'est une chance aussi pour l'Europe de nous avoir fait.
C'est une chance pour Marseille. Ça illustre bien ce que vous disiez juste à l'instant, Nicolas Maizetti. Est-ce que six années après cette candidature Marseille-Provence 2013 capitale européenne de la culture, quel bilan on a pu en tirer en matière de retombées? Quand Jean-Claude Gaulin parlait de chance, est-ce que ça a été une chance pour Marseille? Est-ce que ça a été une chance pour les Marseillais?
Peut-être avant de parler du bilan ou d'évaluation, il y a ce qui vient d'être dit résume parfaitement finalement le cadre de la candidature. C'était d'une part l'idée de remplir finalement cette ambition stratégique internationale qui était d'être la capitale de la Méditerranée. Voilà, donc il a parlé de la Méditerranée. Effectivement, c'était quelque chose qui revenait depuis une dizaine d'années à Marseille. Comment être la capitale, donc cette idée de compétition des villes, hein, c'est vraiment ça, d'être capitale de la Méditerranée, de l'euro-Méditerranée. Il a rajouté l'Europe et puis ensuite il a évoqué l'idée que c'était une chance pour Marseille et une chance pour l'Europe. Et effectivement, le pari de Marseille, alors pas seulement la ville de Marseille, hein, c'était une candidature métropolitaine avec Aix-en-Provence, et ça aussi c'est important, hein, des alliances de villes à l'intérieur d'un espace métropolitain. Et puis c'était pas, encore une fois, c'était pas le politique qui a piloté, en tout cas qui l'a imaginé, mais c'était encore une fois les milieux économiques. Et il dit une chance parce qu'effectivement, le label Capitale Européenne de la Culture, depuis le milieu des années 90, était décerné, ça a un petit peu changé, à des villes qui en avaient besoin, au sens qui subissait...
Besoin pour leur développement.
Voilà, ou en tout cas qui subissait depuis une vingtaine d'années une crise économique, une désindustrialisation, une réputation à redorer, et aussi qui était dans des situations assez géographiquement comparables autour de ports. Donc il y a le premier cas, c'était le cas de la ville de Glasgow au milieu des années 90 qui a candidaté sur cette idée de on a besoin de la capitale européenne de culture, non pas pour la culture encore une fois, mais pour redynamiser une économie qui en aurait besoin. Ensuite on a eu l'exemple de Liverpool un petit peu sur ce même modèle en 2008. Il y a eu des villes aussi d'Europe du Nord qui en ont bénéficié. Et Marseille a joué sur ce créneau-là. Et par rapport à ses rivaux nationaux, en particulier Bordeaux et Lyon, l'idée de la candidature marseillaise, c'était de dire, nous, on est la ville qui en a le plus besoin. Parce qu'on a des retards d'investissement, des retards notamment en termes d'équipement culturel, mais pas seulement.
Mais cette attente, ce lien très fort, cette attente des villes de dire, grâce à ce label, quelque part, on va pouvoir en retirer des effets bénéfiques en développement, en infrastructure, etc. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, est-ce que, quand même, 6 ans plus tard, est-ce que ça a permis, d'une part, de changer l'image? L'image est mine de rien quelque chose d'important, et d'autre part de changer aussi concrètement des choses. Parce que, bon, Marseille, il n'y a pas si longtemps, effondrement d'un immeuble vétuste rue d'Aubagne dans le centre-ville nous rappelle que cette rénovation n'a pas bénéficié à tout le monde.
Sure. Ça c'est évident. Effectivement, le slogan moteur pour le bilan qui avait été annoncé assez rapidement par les promoteurs de la candidature, c'était 1 euro investi, 6 euros de retombée. C'est un chiffre un peu magique qui avait beaucoup circulé, notamment depuis Lille 2004, qui repose sur rien du tout. Hein, aucune évaluation sérieuse. Les capitales européennes de la culture, depuis le début, ont souffert d'un manque d'évaluation. On a du mal à faire le bilan parce que c'est très difficile de savoir pourquoi un visiteur vient à telle expo, d'où il vient, qu'est-ce qu'il consomme. En plus, la focale un petit peu de l'évaluation est autour, encore une fois, de la consommation et de la consommation économique. Voilà. Donc c'est très difficile de faire l'évaluation des retombées, et ça n'a jamais été fait. Alors quand c'est fait par ceux qui l'organisent. Donc c'est un petit peu compliqué en termes de distance à l'objet. Et effectivement, plusieurs années après la capitale européenne de la culture, le bilan qu'on peut en faire, c'est que effectivement, matériellement, une partie de la ville a été transformée, notamment autour du front de mer et du J4, donc le Mucem et toute cette façade maritime, qui s'offre à qui, hein, une façade, hein, ça s'offre à qui? Ça s'offre, eh ben, aux visiteurs, à ceux qui vont découvrir la ville. Donc déjà, effectivement, il y a quel est le public? À qui est destiné ces types d'opérations? Certainement pas, à mon avis, aux populations locales en priorité. D'abord à ce que dans la littérature on parle de classe visiteuse, hein, c'est-à-dire des gens qui vont visiter la ville, donc croisiéristes, touristes, et puis d'autres types de populations, des classes moyennes supérieures, des investisseurs. Vous les avez évoqués tout à l'heure. Et effectivement, en regard, on peut mettre en parallèle finalement la dégradation, qui est un processus très lent, hein, de l'habitat dans dans l'hypercentre. Et donc, finalement, ces politiques d'attractivité et d'internationalisation à partir de grands événements, non seulement n'ont pas profité aux populations locales, mais peut-être aussi ont encore plus fragilisé les catégories les plus populaires, les plus précarisées de l'hypercentre. Et donc, les investissements qui ont été faits dans une partie de la ville, évidemment, n'ont pas été faits dans d'autres. Et aujourd'hui, on a effectivement des programmes de requalification qui visent, qui s'inscrivent dans la même perspective de la capitale européenne de la culture. Un adjoint au maire parle de montée en gamme, hein, sans cesse. Hein, et cette montée en gamme, elle se fait sans doute aux dépens des habitants et des résidents de ces quartiers.
Au-delà de Marseille, Marc Laverne, comment est-ce que vous voyez ce lien entre l'idée qu'un grand projet culturel va pouvoir sortir une ville, on va dire, peut-être secondaire dans les grands réseaux internationaux, et bien la sortir d'un marasme économique, par exemple?
C'est quelque chose qui peut fonctionner, effectivement, s'il y a un substrat, s'il y a une volonté. Et je pense aussi, le cas de Marseille est effectivement un contre-exemple, qui est un soutien de la population, qui est vraiment une volonté de sortir d'une image qui serait négative ou défectueuse pour parvenir à une autre image, ou pour mettre en valeur quelque chose qui existe, mais de manière un petit peu sous-jacente, pour finalement jouer des cartes personnelles dans un jeu compétitif à l'échelle nationale ou internationale. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans les villes que je connais un peu du Golfe le cas, puisque là il n'y a pas de compensation recherchée, il n'y a pas finalement et les moyens sont disponibles. On cherche simplement à avoir une image, mais à partir de effectivement pour attirer du monde, et puis aussi pour se faire plaisir, c'est finalement pour se donner à soi une meilleure image,
hein. Pour l'aspect symbolique, vous voulez dire?
Pour l'aspect symbolique,
il y a un terme qui apparaît souvent quand on se penche un peu sur cette question des stratégies d'attractivité des villes, c'est le terme de marketing territorial. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est un mot un peu un anglicisme, mais
oui, c'est
on parle aussi de branding.
Mais ça correspond à une réalité, et c'est un peu paradoxal parce qu'on parle de culture. Mais finalement, que les musées soient visités ou non, que ce soit le MUCEM ou que ce soit le Louvre à Abu Dhabi, peu importe. Ce qui est important, c'est que les gens sachent qu'il y a ce musée d'architecture. L'architecture, à la limite, compte plus, et l'architecte qui les a bâtis, que ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, finalement, ces opérations culturelles sont souvent des soufflets qui retombent assez vite après. Et ce qu'on en attend plutôt, c'est un changement plus durable de l'image des villes.
Alors, Abu Dhabi, vous m'offrez une transition parfaite, tout de suite direction le Golfe.
This museum is not very different than the UAE.
Ce musée est à l'image des Émirats Arabes Unis. Je me réjouis d'avoir grandi dans un pays ouvert, tolérant, moderne, mais qui a aussi réussi à donner aux gens, au pays et aux leaders de cette région du monde de l'espoir et une voie différente à suivre pour aller de l'avant. En écoutant le président Macron décrire ce musée comme un instrument de soft power, cela conforte l'idée que nos relations avec la France peuvent avoir des effets positifs dans la région.
Voilà, c'était Abdullah bin Zayed, le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis. C'était en janvier 2018, donc quelques mois après l'inauguration du musée du Louvre à Abu Dhabi, un musée universel qui célèbre l'échange entre les cultures et la tolérance, je cite. Est-ce que cette idée de mettre en avant le cosmopolitisme, la diversité, est-ce que c'est une partie intégrante de la stratégie d'attractivité? On se demandait tout à l'heure quels étaient l'éventail un peu des villes, qu'est-ce qu'elles avaient à proposer. Eh bien, est-ce que dans le cas du Golfe, cette idée de valoriser la diversité et l'ouverture culturelle fait partie intégrante de la stratégie?
Alors là, il y a deux questions, parce que c'est à Abu Dhabi, et donc il y a une sorte de compétition avec Dubaï, qui avait pris de l'avance en termes de notoriété à l'échelle mondiale, sur une base surtout commerciale, finalement. Et Abu Dhabi, qui est la capitale fédérale des Émirats, manquait d'attractivité, alors que c'est elle qui détient des moyens considérables. Donc le choix s'est porté, entre autres, sur ce musée qui est le Louvre, déporté à Abu Dhabi, avec un concept effectivement global qui a été élaboré non pas par les Émiriens mais par les Français, par le Louvre, hein. C'est finalement une opération de soft power française et non pas de soft power émirienne et abou-dhabienne, hein. Je pense que aujourd'hui les gens des Émirats ont compris à peu près le concept de dialogue des civilisations qui était sous-jacent derrière cette idée de Louvre, où on met en parallèle les cultures asiatiques, américaines, africaine, européenne. Bon, c'est quelque chose qui donne un résultat tout à fait somptueux et intellectuellement très intéressant pour les visiteurs. Mais les visiteurs sont des étrangers qui viennent maintenant pour le livre, le Louvre à Abu Dhabi. Donc ça n'est pas quelque chose qui est intégré dans la vie de la cité. C'est intégré dans le dispositif global où il y a aussi une grande mosquée, la mosquée Sheikh Zayed. Il y avait avant le circuit Ferrari qui continue toujours, mais qui était l'endroit le plus attractif finalement pour un tourisme populaire, international. Et donc Abu Dhabi essaye de se forger une image de capitale fédérale des Émirats, de ville du dialogue et de la tolérance. Tout ça correspond à une certaine réalité, mais c'est quand même démarqué par rapport à Dubaï qui a pris le lead, qui était la première ville à se hisser à ce rang international. Et cette volonté de se projeter à l'international est beaucoup plus enracinée à Dubaï dans, je dirais, la constitution de la population qu'à Abu Dhabi, qui est une capitale bédouine, si vous voulez. Donc de gens
vous
qui
dire
n'ont
qu'il y a
pas
quelque chose d'un peu plus artificiel dans Abu Dhabi, de faire ce grand musée avec pas forcément encore la population, les visiteurs à proximité qui pourront,
certainement,
y aller.
Ça correspond à la volonté de cette capitale de s'imposer comme capitale à la faveur de la crise de 2008 qui a provoqué la quasi-faillite de Dubaï. Et donc c'est à Abu Dhabi que sont concentrées les ressources de l'ensemble des Émirats, de la fédération des sept Émirats. Donc les moyens financiers sont disponibles. Ce qui manquait, c'était l'image. Alors c'est juste pour compléter à l'égard d'un public occidental, surtout cette image d'un pays, comment dire, qui est ouvert sur le monde, d'un pays qui mérite d'être protégé contre tous les extrémismes, je dirais, y compris religieux, parce que eux font preuve de volontarisme en matière de tolérance. Hein. L'année 2018 était l'année de la tolérance aux Émirats, et donc c'est quelque chose qui se décline maintenant d'autres manières. Le pape François est allé faire une grande messe en janvier dernier, et on est en train de construire un gigantesque temple hindou qui devrait pouvoir accueillir 1 million de personnes, hein, c'est-à-dire le tiers de la population indienne des Émirats.
C'est là qu'on voit aussi la dimension diplomatique de cette stratégie culturelle. Encore une question sur Abu Dhabi, parce que l'information, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est tombée hier. Le Canard Enchaîné a révélé que le Louvre aurait finalement été, donc le Louvre Paris, aurait été lésé financièrement dans cette opération ayant consisté donc à prêter l'usage de la marque le Louvre par les Émirats Arabes Unis. C'est un ancien procureur général de la Cour des Comptes qui a tiré la sonnette d'alarme dans une lettre adressée au ministère de la culture. Cette lettre a été rendue publique par le canard enchaîné. Alors, on va attendre un peu d'en savoir un peu plus de détails sur ces informations-là. Mais voilà, visiblement, financièrement, la France ne s'y serait pas retrouvée si bien que ça. Est-ce que ça illustre quelque part l'idée que derrière la coopération, derrière le soft power, derrière l'idée qu'il y a une grande coopération France, Golfe, etc., il y a toujours cette idée qui était notre point de départ d'une compétition féroce où l'objectif c'est quand même pas tant la coopération entre grandes villes mais tirer à soi eh bien les profits possibles d'un tel musée.
Ben, je crois qu'il y a des acteurs qu'on oublie parfois. Ben, on parlait tout à l'heure donc de capitale européenne de la culture. Ben, il y a un comité derrière qui prend des décisions, qui a sa propre politique et sa propre logique, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire de favoriser tel ou tel type de ville. Eh bien là, il y avait une compétition à l'intérieur des cercles dirigeants à la fois de l'État en France et aussi de la direction du Louvre et des directions successives du Louvre. Donc il y a une opération franco-française qui reste à éclaircir si on veut. Il y a un étudiant qui a fait sa thèse sur la politique muséale du Golfe et l'implication de la France dans cette politique muséale dans le Golfe, hein, Alexandre Caseroni, qui est à Normalsup, et je pense qu'il a fait un travail pionnier et tout à fait intéressant pour montrer le dessous des cartes de ces politiques culturelles, en particulier dans le Golfe. Alors là, il y a cette dimension. Je ne pense pas que la France en tant que telle ait été lésée. Je pense qu'il y a eu un forcing qui a été fait pour vendre en compétition avec les Britanniques, les Américains. Il y avait des cabinets d'architectes d'une part, qui était en concurrence, et puis après, il y avait des musées. Le Guggenheim va être construit à côté du Louvre à Abu Dhabi bientôt, et le British Museum avait aussi ses projets. Donc, c'est une véritable compétition, je dirais, comparable à des compétitions commerciales, hein, dans ces domaines culturels. Et là, finalement, l'impact sur la société est un petit peu secondaire. Mais je crois que les gens d'Abu Dhabi, en acceptant un musée, acceptent aussi une logique et acceptent et attendent de ça, encore une fois, un retour en termes d'image, mais c'est une protection qu'ils cherchent. Une protection qui vaut celle d'une base militaire, comme la France en a une à Abu Dhabi, ou qui est même plus importante, parce que l'idée, c'est de toucher non pas les marchands d'armes, ou les pétroliers, ou les investisseurs, mais l'opinion publique française. Ce que joue aussi le Qatar, d'ailleurs, avec ses investissements dans le domaine sportif. C'est de toucher le public pour se prémunir de ce qui est arrivé au Koweït en 1990, c'est-à-dire une invasion par Saddam Hussein, et puis les pays occidentaux se sont mobilisés effectivement pour sauver le Koweït, mais il y a un traumatisme qui subsiste dans toute la région par rapport à ces menaces des pays voisins.
Pour être bien explicite, quand vous dites une demande, une stratégie de protection, c'est par rapport aux grands voisins et surtout l'Arabie Saoudite.
Ah, c'est l'Iran, c'est l'Arabie Saoudite, ça peut être l'Irak, ça peut être d'autres pays qui sont plus lointains, mais effectivement comme ce sont des éponges à pétrole, ces pays-là, ou bien à gaz, dans le cas du Qatar, il y a un sentiment de fragilité. Et cette construction économique et cette attractivité qu'il y a, elle doit être aussi défendue, et pas simplement par des alliances militaires.
Et réaction, Nicolas Maizetti.
Oui, non, moi je vais revenir peut-être sur le soft power qui était évoqué. Et effectivement, je ne sais pas s'il est très opérant pour la diplomatie des villes, mais en tous les cas, ce qui signifie originellement dans le concept de Joseph Nye, c'était à la fois le rayonnement, mais aussi l'influence. C'était aussi l'influence, c'est-à-dire comment est-ce que on exerce la puissance autrement. Donc à l'origine, ce concept, c'est pour les États qui effectivement ne disposaient pas de ressources militaires importantes, mais qui essayaient de chercher à, ou en tout cas que le facteur militaire n'était plus le plus décisif dans les relations internationales, et donc qui cherchaient à continuer à influencer par d'autres moyens, notamment en exportant des valeurs, des formes, des normes culturelles, etc., pour faire que les autres fassent ce que cet État voulait qu'ils fassent. Il y a bien une logique d'influence. Or, dans le cas des villes, je ne sais pas si, alors s'il y a une dimension de soft power dans la diplomatie des villes, ça voudrait dire que les villes désormais singent finalement la diplomatie ou la politique internationale des États. Ce qui est une rupture avec le début de l'internationalisation des villes, parce qu'on a beaucoup parlé de compétition, mais cette compétition, elle est en fait très récente dans l'histoire des politiques internationales des villes et de la diplomatie des villes. Elle est très récente, elle date, finalement, vous l'avez évoqué, de la montée, de l'intensification de la mondialisation, c'est-à-dire de l'ouverture des frontières et de la mobilité du capital qui le rend effectivement attaché à tel ou tel espace. Mais à l'origine, au début du siècle, du XXe siècle, là, il existait des diplomaties des villes, il existait une internationalisation des villes, mais qui se passait par des réseaux de coopération, notamment des voyages entre des maires qui se rencontraient, notamment en Europe, pour échanger leurs bonnes pratiques en termes de gestion urbaine. Donc là, on était vraiment dans l'ordre de la coopération. Il n'y avait pas du tout de dimension de compétition.
Il y avait aussi la question des jumelages très importantes entre les villes.
Voilà. Après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, là, il y a un deuxième temps, si on veut, de cette internationale des villes, c'est la question des jumelages, avec sur une base particulière qui était la réconciliation franco-allemande. Donc là, c'était faire l'inverse de ce que faisaient les États, c'est-à-dire la guerre, mais au contraire de promouvoir et de célébrer la paix par le bas communal.
Cette dynamique de coopération, voire de solidarité entre grandes villes, vous avez l'impression qu'elle est en perte de vitesse ?
Alors tout à fait, depuis, enfin on peut, si on tire un peu le fil, effectivement, depuis les années 80-90, ce paradigme de la solidarité internationale par les villes a été remplacé finalement un autre, qui est celui de la compétitivité, de l'attractivité, de la compétition, de la concurrence, mais c'est pas quelque chose qui s'impose naturellement, hein. C'est pas un état de fait qui a toujours été là, qui le sera sans doute toujours, c'est un moment historique, hein, qui succède donc à un moment de la solidarité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de coopération internationale entre les villes. Hein, il continue d'y avoir une forte présence, notamment en France, de collectivités locales sur l'aide publique au développement et sur une tentative de renouveler, ils n'y arrivent pas toujours, hein, mais une tentative de renouveler les relations nord-sud. Mais de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'État est plutôt sur les freins et en train de dire aux villes arrêtez de, et ça a été dit explicitement, hein, arrêtez de faire des partenariats avec l'Afrique subsaharienne, etc. Il n'y a pas de marché, allez plutôt en Chine, allez plutôt en Amérique du Nord ou à faire des partenariats avec des villes européennes où vous pourrez effectivement utiliser votre coopération internationale à des fins d'amélioration de vos bonnes pratiques. Je mets entre guillemets bonne pratique et de croissance économique. C'est pas du tout un hasard. Hein. Je veux pas retomber dans la marseillologie, hein. Mais si Jean-Claude Gaudin, son dernier voyage, qui a fait un peu de bruit localement, c'était pas en Méditerranée comme il le disait, hein, en 2008, mais là très récemment, c'était à Miami. Voilà. Donc là, il y a aussi des formes de tournant. Hein. C'est plus la Méditerranée, le centre, l'ambition méditerranéenne de Marseille, elle a largement disparu, hein, très rapidement. En tout cas, elle est rentrée dans une crise profonde. Aujourd'hui, on va chercher. Voilà, il y a eu un grand voyage à Shanghai au milieu des années 2010, et puis maintenant Miami. On voit bien, hein, que les cibles des partenariats et des partenaires sont plus les mêmes, et ça signifie des choses sur ces nouvelles orientations de la solidarité à la compétition.
Alors, il y a d'autres acteurs qui ont aussi un rôle très actif dans cette compétition mondiale. Ce sont les entreprises privées, en particulier les grandes entreprises. En 2017, Amazon avait lancé une compétition mondiale pour implanter son second siège, attribuer l'implantation de son second siège social. Il y avait 50 000 emplois à la clé et 200 villes avaient porté leur candidature. Alors, au final, c'est New York et puis une petite ville près de Washington qui ont gagné cette compétition. Mais je vous cite cet exemple parce qu'il y avait une ville aux États-Unis, une ville en Géorgie, Stonecrest, qui avait proposé de se rebaptiser Amazon City et de faire de Jeff Bezos son dirigeant à vie. Je ne sais pas si ça se serait concrétisé réellement, mais peut-être que ça illustre les, je ne sais pas s'il faut appeler ça des dérives, mais le fait que dans cette compétition, eh bien, à un moment, un acteur privé peut prendre un pouvoir particulier, voire dicter ses lois à une ville. Tant l'enjeu de l'emploi en particulier va être important, Marc Lavergne.
Oui, là, c'est un cas tout à fait extrême qui montre que finalement cette politique d'image, elle est au cœur de la gouvernance de la cité. Donc on n'en est pas là partout. Mais effectivement, le cas de Marseille montre très bien qu'on va chercher le salut à l'extérieur, où on peut, quand on l'a pas sur place. Alors, dans le Golfe, c'est un cas un peu différent, parce qu'il y a des villes qui refusent cette politique d'image. Je pense à Sharjah, par exemple, qui est une ville jumelle avec Dubaï, mais qui est, j'ai écrit un article récemment qui s'appelait l'anti-Dubaï, avec un point d'interrogation, parce que là, de manière tout à fait assumée, les dirigeants ont pris le contre-pied de cette politique d'image très volontariste et tournée vers le monde extérieur, en se présentant comme le conservatoire des traditions et de la culture traditionnelle, entre guillemets, arabe, et la tradition marchande aussi de ces villes du sud ou de cette région du monde. Alors, il y a, quand on parle des villes du Golfe, il y a effectivement les villes dont on parle qui attirent le monde entier, qui sont des hubs au point de vue touristique et au point de vue aussi transit de marchandises. Et puis, il y a des villes qui jouent la carte inverse dans la mesure où cette volonté d'émerger comme une ville mondiale, ça ne répond pas à une nécessité absolue, puisque ce sont des communautés qui ont les moyens de vivre tranquillement, sans attirer le monde entier, ou sans s'exporter au monde entier. On n'est pas dans des villes qui sont dans une situation désespérée, avec les villes du Golfe. Hein. Donc, je pense que la volonté d'apparaître, elle n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi une volonté d'être utile, ou bien de se donner à soi une image positive de gens qui utilisent proprement leur argent. Et donc il y a des choix différents selon les capacités héritées des gens, parce que ces villes du Golfe ne sont pas que des villes champignons, ce sont aussi des villes qui, depuis Sinbad le Marin, depuis le Haut Moyen-Âge ou l'Antiquité, sont des villes de transit entre l'Orient, l'Occident, la Mésopotamie, l'Inde, la Chine, etc. Donc il y a une capacité à comprendre le monde, à s'ouvrir sur le monde, qui n'existe pas, ou beaucoup moins en Arabie Saoudite, par exemple, qui est un monde de bédouins, beaucoup plus centré sur le désert. Hein. Et c'est le cas aussi à Abu Dhabi, toutes choses égales par ailleurs. Donc il y a une diversité dans ces villes par rapport à cette volonté ou cette nécessité absolue de se présenter comme attractive.
Ce qui est particulier aussi dans les villes du Golfe, eh bien, c'est que quelque part, l'État, les Émirats Arabes Unis et la ville ne font qu'un d'une certaine manière, et contrairement à d'autres pays où il peut y avoir peut-être des oppositions, des stratégies différentes entre celles de la ville, d'une part, qui va par exemple tout faire pour attirer une grande entreprise, et puis l'État qui pourrait, et d'ailleurs c'était une question que je voulais vous poser, est-ce que dans certains cas, l'État ne pourrait pas davantage jouer un rôle de régulateur face à certains risques, par exemple le risque de hausse des loyers parce qu'on a attiré une population avec un capital économique très très élevé. Je pense aussi à certaines dérives du tourisme de masse, le problème de Airbnb, etc. Est-ce que l'État a aussi un rôle à jouer par rapport à ces capitales et de dire attention, là stop, on va mettre de la régulation, on ne peut pas vous laisser rentrer comme ça dans cette compétition internationale sans mettre des garde-fous? Nicolas Mezzetti.
Ouais, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé ces dernières années, me semble-t-il. C'est plutôt les villes, enfin certaines villes, qui ont essayé de réguler, enfin d'essayer de discuter avec ces grandes entreprises de services urbains, que ce soit Airbnb ou de ces plateformes en ligne, pour essayer de réguler et de limiter les effets du tourisme de masse aussi. Je pense qu'hier vous aviez une émission sur ce renouveau du socialisme municipal, en tout cas pour le coup anti-entrepreneurial, notamment à Barcelone, en France, à Paris, il me semble qu'ils essayent de discuter avec Airbnb pour limiter les effets. Alors on n'est pas du tout à la même échelle, mais là pour le coup c'est plutôt les villes qui sont en première ligne dans la discussion avec ces plateformes, et les États plutôt en retrait de ce point de vue-là.
On est avec vous Nicolas Maizetti et Marc Lavergne. Tout de suite, direction Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandre.
Pas facile de se faire une place parmi les villes les plus attractives du monde lorsque l'on est une ville pétrolière basée dans une région du monde marquée par les tensions, voire la guerre, et un passé soviétique. Et bien c'est pourtant l'objectif de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, qui mise notamment sur l'accueil et l'organisation de grands événements sportifs pour redorer son image.
Bien sûr, c'est très important pour un jeune pays comme le nôtre, indépendant depuis seulement 21 ans, de placer notre drapeau sur la carte du monde, de marquer notre appartenance à l'Europe et aussi d'accueillir l'Europe en Azerbaïdjan. Nous sentons qu'il y a beaucoup de changements à travers le pays dans bien des domaines, dans différentes organisations, y compris les organisations gouvernementales. Et nous avons amélioré le système des transports. Pas mal de jeunes gens apprendront de nouvelles choses durant les Jeux et ils en tireront une grande expérience pour l'avenir.
Et nous a rejoint une nouvelle invitée, Adeline Brault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone, merci beaucoup d'être en direct ce matin. Vous êtes chercheuse à l'Institut français d'études anatoliennes, ancienne responsable de l'Observatoire du Caucase à Bakou. On entendait à l'instant le ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Azerbaïdjan. Il réagissait suite à l'attribution des Jeux européens de 2015 à son pays. Est-ce que, alors on voit que Bakou effectivement mise sur le sport en particulier pour attirer des visiteurs du monde entier. Est-ce que c'est une stratégie qui lui a permis de changer son image?
Alors, changer son image, pas forcément. Je dirais au moins c'est une stratégie qui a permis au pays d'être connu. Et vous parliez du sport. Justement, hier soir, la finale de la Ligue Europa s'est déroulée à Bakou. Donc, surtout les Jeux européens, c'est vraiment quelque chose aussi qui a permis de faire connaître le pays. Mais là, c'est un petit peu à double tranchant parce que ça a été également l'occasion pour les journalistes et les observateurs de, si vous voulez, de critiquer un petit peu la situation du pays en termes de liberté d'expression, de droits de l'homme, etc. Donc voilà, cette notoriété ne va pas sans aspects négatifs, en tout cas du point de vue des autorités azerbaïdjanaises.
Est-ce que Bakou a les moyens de ses ambitions? Parce que c'est une ville qui est effectivement très dépendante des cours du pétrole. Elle a bénéficié de taux très avantageux dans les années 2000, avec une croissance vraiment importante. Mais c'est une ressource qui est fluctuante, qui peut être fragile. Est-ce que la ville va avoir les moyens de ses ambitions?
Ah, mais je pense que là, la réponse est quand même très clairement non à l'heure actuelle. Donc, comme vous le disiez, le pays a bénéficié de cours d'hydrocarbures, pétrole et gaz aussi, qui est une ressource très importante pour l'Azerbaïdjan. Donc, ces taux ont été très élevés au milieu des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Et c'est du reste ce qui a permis de faire des travaux très, très importants dans cette ville, de faire des travaux de prestige du type du centre d'art Eydar Aliyev qui a été fait par le bureau d'architectes Zaya Hadid, mais en effet depuis plusieurs années, bon là les cours remontent un petit peu, mais il y a eu un creux vers 2014-2015, surtout il y a eu deux très importantes dévaluations en Azerbaïdjan qui ont fait beaucoup de mal à la population, mais pas seulement, qui ont arrêté un certain nombre de projets et donc si vous voulez voilà, c'est là, en plus ils ont des difficultés à diversifier leur économie, donc effectivement ils sont très très dépendants de ce prix des hydrocarbures et de la variation des prix, hein. Donc on n'est quand même pas dans le même modèle que Dubaï ou les villes évoquées, les villes et les pays évoqués par vos invités précédemment.
Et pourtant, Dubaï, hein, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un modèle qui est revendiqué par les autorités en Azerbaïdjan. Quel est au fond l'objectif pour la ville de Bakou? Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de déjà faire connaître cette ville, mais derrière, est-ce que c'est plutôt une question d'image, hein, ce dont on a parlé là depuis quelques minutes? Est-ce que c'est une stratégie de développement économique? Est-ce que c'est aussi une stratégie diplomatique de s'affirmer par rapport à certains voisins, l'Arménie par exemple, dans le Caucase?
Oui, tout à fait. Alors bon, effectivement, le modèle pour Bakou, ça reste Dubaï du point de vue des autorités, où effectivement on se dit on va créer la demande. Donc puisqu'on essaye d'attirer des gens, des touristes étrangers notamment, avec tous ces événements internationaux, on crée des centres de conférences, des infrastructures de loisirs, de tourisme. On estime que effectivement c'est cette offre qui va créer d'elle-même la demande. Bon, sauf que le modèle a beaucoup moins bien réussi que dans le cas de Dubaï, parce qu'effectivement, pour que tout cela marche, il faut qu'il y ait un cadre administratif et juridique sécurisant et sûr, ce qui est loin d'être le cas en Azerbaïdjan, qui est par ailleurs quand même assez éloigné des flux commerciaux, financiers et touristiques mondiaux. Voilà, alors après, le but, il est de plusieurs ordres, hein. Il y a déjà des aspects économiques et financiers. On est quand même dans un état de type oligarchique néo-patrimonial où l'argent donc doit être redistribué mais pas au point d'un point de vue disons positif forcément, c'est-à-dire il doit être distribué à un certain nombre de personnes pour s'assurer la fidélité au régime. Donc il y a ce premier aspect, l'argent doit être également blanchi et réinvesti. Donc là évidemment l'immobilier, tout ce qui est tourisme, etc., ce sont des secteurs qui sont vus comme étant prometteurs parce que finalement l'argent est investi assez facilement. C'est aussi une préoccupation quand même un petit peu économique et sociale dans le sens où le bâtiment permet d'employer une main d'œuvre qui vient de façon très importante des autres régions d'Azerbaïdjan qui sont beaucoup moins développées économiquement que Bakou. Et puis vous évoquez la diplomatie et évidemment il y a un enjeu, si vous voulez, de diplomatie et même de souveraineté qui est très important pour l'Azerbaïdjan. Il s'agit de se faire connaître et de se faire reconnaître de façon à gagner du terrain par rapport en particulier à l'Arménie dans le conflit qui oppose l'Azerbaïdjan donc à ce pays pour le contrôle du Haut-Karabakh.
Adeline Bro, alors vous êtes peut-être dans un endroit où il y a du vent, donc si on entend dans votre téléphone, si vous avez la possibilité de vous mettre quelque peu à l'abri pour qu'on vous entende bien. Vous disiez, voilà, Dubaï a pu être un modèle pour Bakou, mais elle en est loin, notamment parce que ce ne sont pas les mêmes moyens qui sont mobilisés. Mais j'ai pu lire dans un article que vous avez signé pour la revue Urbanisme, justement, sur Bakou, que ce que mobilisait aussi cette ville, et que Dubaï n'a peut-être pas, c'est une mémoire historique, une mémoire patrimoniale, notamment sur son passé soviétique. Est-ce que ça peut être un moyen de se distinguer, de mettre en valeur ces monuments, cette époque qui, eh bien, voilà, 30 ans après la chute du mur, maintenant commence à peut-être être un facteur d'attractivité, voire un facteur touristique?
Alors, si vous voulez, ce qu'on peut appeler l'héritage architectural soviétique n'est clairement pas un argument de vente auprès des touristes pour les autorités azerbaïdjanaises. Voilà, donc cette architecture peut être éventuellement mobilisée dans des cas très très précis. Donc un exemple, l'administration présidentielle actuelle de l'Azerbaïdjan prend place dans ce qui était le bâtiment anciennement des autorités soviétiques azerbaïdjanaises. Donc ça, c'est de l'ordre du symbolique. Le patrimoine éventuellement qui est investi par les autorités, par les personnes qui sont en charge du développement du tourisme, est plutôt lié à l'héritage, disons, on va dire, européen, haussmannien d'une partie du bâtiment de Bakou, et évidemment ce qu'on appelle la vieille ville, qui est donc la ville médiévale de Bakou. Et donc ça, c'est un petit peu un argument aussi marketing, si vous voulez, pour dire Bakou, c'est l'Europe de l'Orient et l'Orient de l'Europe.
Restez avec nous, Aline Bro. Une réaction en plateau, Marc Laverne, vous qui connaissiez bien Dubaï, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie d'autres villes en dehors du Golfe d'essayer de copier le modèle Dubaï?
Oui, mais je pense que ça montre qu'il ne suffit pas d'avoir besoin de cette notoriété, il ne suffit pas d'avoir les moyens financiers, il faut aussi avoir d'abord la localisation, parce que Bakou, je pense, est sur une mer fermée, sur la mer Caspienne, et dans une région qui est mal desservie, je dirais, et qui n'est pas entourée de pays porteurs, alors que Dubaï a la chance d'être un endroit dont elle a pu faire un hub, parce que c'est sur la route entre l'Europe, l'Asie, l'Océanie, et que l'Afrique n'est pas loin, l'Inde, il y a des bassins de clients tout autour, et puis il faut surtout des compétences. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inventer, c'est-à-dire qu'il y a des peuples qui sont plus ouverts que d'autres, qui sont peut-être plus dynamiques, qui ont plus la connaissance déjà des besoins des gens qu'on veut attirer. Et c'est comme ça que Dubaï a réussi. Si Dubaï vit au rythme, c'est une ville événement qui vit au rythme des foires, des expositions, des événements sportifs, des festivals, autour de grands malls commerciaux aussi. C'est un peu le supermarché des pays pauvres d'Afrique et d'Asie, mais en même temps, ça arrive à attirer maintenant une clientèle complémentaire qui a de gros moyens financiers pour investir, comme à Bakou, dans l'immobilier, c'est-à-dire le blanchiment d'argent, mais aussi, si vous voulez, il y a une palette complète d'activités qui se nouent autour de cette ville pour en faire une image qui est incontestable et qui est difficile à copier finalement. Il n'y a pas que Bakou qui essaie de copier Dubaï, il y a aussi d'autres villes dans le monde arabe et ailleurs, mais qui n'arrivent pas à l'égaler parce que Dubaï est une ville qui pédale tout sans arrêt et qui, si elle s'arrête de pédaler, tombe. C'est un peu la mentalité des gens, donc il s'agit d'être toujours faire la course en tête.
Aline Bro, réaction?
Oui, écoute, je pense que ce que disait Marc Laverne est tout à fait vrai. C'est un petit peu ce que j'évoquais lorsque j'expliquais que Bakou est effectivement éloigné des flux touristiques, commerciaux, financiers, mondiaux, etc. Et en plus, c'est quand même un pays, l'Azerbaïdjan, qui évolue dans un environnement géopolitique extrêmement complexe. Vous avez la Russie au nord, vous avez l'Iran au sud, vous avez à l'ouest, bon, avec la Géorgie, ça va, avec l'Arménie, ça ne va pas du tout. Vous avez une toute petite frontière avec la Turquie du côté de l'enclave du Narichev. Voilà, on est quand même dans un environnement géopolitique qui n'est pas du tout simple. Et effectivement, on a également, comme le disait Marc Laverne, un problème de compétences. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique du reste que l'Azerbaïdjan attire en général, essaye d'embaucher ou de débaucher des architectes ou des communicants originaires des États-Unis ou d'Europe ou d'ailleurs, parce que ils sont un petit peu dépourvus de compétences et de ressources en nombre suffisant au niveau local. Et donc, comme je vous expliquais, il est plus facile d'essayer d'embaucher dans le bâtiment par des projets immobiliers plus ou moins nécessaires la main d'œuvre très abondante en surplus et non qualifiée qui est originaire des autres régions d'Azerbaïdjan.
Nicolas Meizetti, sur Bakou?
Oui, alors pas trop sur Bakou, mais sur cette idée du modèle et des villes qu'on veut copier. Je pense que c'est un élément assez central de la marque des politiques internationales des villes et des relations internationales entre les villes, et qui montre que effectivement toutes les villes veulent soit ressembler à une autre, soit diffuser leur modèle pour qu'on leur ressemble, et qui renvoie donc à cette circulation des modèles, et qui est assez paradoxal avec tout ce qu'on a dit auparavant sur la compétition et l'attractivité, puisque Avec cette idée de modèle qui circule, les villes finalement vont se ressembler, vont se standardiser, vont converger vers des modèles similaires, alors même que l'enjeu d'une compétition, c'est plutôt de se distinguer. Donc en fait, pour se distinguer, les villes font la même chose que les autres. Donc là, c'est un petit paradoxe de cette question actuelle des relations internationales entre les villes.
Eh bien, merci infiniment. Merci à vous, Adeline Brault. Vous étiez avec nous à l'instant par téléphone pour évoquer Bakou. Je peux signaler qu'on peut lire votre article « Bakou, grandiloquente et incertaine ». C'est paru dans la revue Urbanisme de ce printemps 2019. Et puis, un grand merci à vous deux, Nicolas Maïsetti et Marc Laverne, de nous avoir accompagnés ce matin. Nicolas Maïsetti, je rappelle qu'on peut lire pour en savoir plus, aller plus loin sur Marseille, le cas de Marseille, Marseille-Ville-Monde aux éditions Cartala en 2017.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et bonjour Brice Couturier.
Bonjour Mélanie Chalandon.
Alors on a voté ce mois-ci dans la plus grande démocratie du monde et les résultats de ce scrutin ont provoqué beaucoup d'étonnement. Pourquoi ?
Eh bien l'élection indienne de 2019 deviendra un cas d'école propre à chambouler l'idée générale moi admise en politique électorale selon laquelle un élu qui se représente est jugé d'après ses capacités à tenir ses promesses. C'est ce qu'écrit Shashi Tharoor sur le site Project Syndicate. Narendra Modi avait gagné les élections en Inde il y a 5 ans en proposant de faire de son pays un géant manufacturier aux capacités high-tech spectaculaires. Il annonçait un plan de relance des investissements, il promettait à la jeunesse indienne la création de millions d'emplois grâce à une croissance spectaculaire. Eh bien, les résultats, 5 ans plus tard, sont loin de correspondre à ses promesses de campagne. Sous la gouvernance de Modi, la croissance indienne a joué aux montagnes russes, mais en moyenne, elle est demeurée inférieure à ce qu'elle était au début du siècle. Le gouvernement affiche un taux de 6% que de nombreux experts jugent surévalué d'au moins 2 points. Les exportations sont médiocres, les finances publiques mal en point pour cause de rentrées fiscales décevantes. En ville, le chômage a bondi. À la campagne, le revenu agricole stagne désespérément. Alors vous me direz, n'importe quel autre dirigeant aurait perdu le pouvoir sur ce mauvais bilan, mais Narendra Modi, lui, en sort paradoxalement renforcé. Son parti, le BJP, avec 45% des suffrages, améliore son score de 2014. Il obtient une majorité absolue de 303 sièges au Parlement sur 543 et même une cinquantaine de plus grâce à ses alliés.
Et en théorie, Brice, eh bien, quand on ne tient pas ses promesses, on n'est pas réélu. Mais Narendra Modi, lui, remporte les élections. C'est un triomphe. Comment l'expliquer ?
Ben d'abord par la personnalité même de Narendra Modi, son charisme extraordinaire. Il est omniprésent dans les médias. Le BJP, une machine électorale incroyablement bien huilée et efficace, a mené une campagne entièrement centré sur la personne de son leader. La présidentialisation du système parlementaire indien d'ailleurs est totale. Les agents électoraux du BJP ont laissé des messages demandant de les rappeler à chaque numéro de téléphone. Ils se sont rendus dans chaque foyer avec toujours le même message. C'est votre devoir de voter pour Modi. Alors cette personnalisation à outrance a marché. En mai 2014, lors des dernières élections, 36% des Indiens voulaient Modi pour Premier ministre. Ils sont 43% en mai 2019. Très significatif aussi, l'homme est plus populaire que son parti. Plus étonnant encore, de nombreux analystes ont relevé chez les électeurs le besoin de trouver des excuses aux échecs de leurs favoris. Pour se faire pardonner leurs échecs, Modi et son parti sont parvenus à faire passer l'économie au second plan des préoccupations des électeurs. Au début de la campagne électorale, la question du chômage apparaissait en tête des inquiétudes de 21% des sondés. Eh bien, à la veille du vote, il n'était plus que 12%. Ce qui l'a remplacé, les questions de sécurité nationale. Et c'est pour ça que Modi a remporté son deuxième mandat. Il apparaît aux Indiens comme un leader fort et déterminé, un nationaliste à poigne. Il l'a prouvé lors des attaques terroristes au Jammu et Cachemire en février dernier. Modi a répliqué immédiatement en faisant bombarder par son aviation des camps d'entraînement situés au Pakistan. Comme l'écrit Milan Vaishnav dans le Washington Post, c'est la question du leadership qui l'a emporté sur les motifs de plainte. Et paradoxalement, malgré leurs inquiétudes sur le plan économique, les électeurs ont considéré que Modi était le mieux placé pour donner suite à leurs doléances. À présent, eh bien, le sort de la plus grande démocratie du monde est entre les mains de cet homme, Modi. Leader nationaliste et populiste, va-t-il emmener l'Inde sur le chemin de l'autoritarisme ? Beaucoup le craignent. Shashi Tharoor, toujours lui, écrit « L'inquiétude qui étreint de nombreux Indiens libéraux est que l'idée longtemps chérie de leur pays comme un État bienveillant, inclusif, dynamique dans son étonnante diversité de religion, d'ethnicité, de langage et de caste, eh ben, c'est en train de s'écrouler. À sa place émerge une Inde qui est moins pluraliste, moins tolérante, qui accepte moins la différence que celle que nous avons longtemps célébrée. » En tout cas, le tournant pris par l'Inde, signe des temps, est un mauvais signe pour la santé de la démocratie dans le monde.
Eh bien, merci beaucoup Brice Couturier. Et votre chronique à réécouter, retrouver sur le site de France Culture. Comme toujours, on se retrouve demain. Mais dans un instant, eh bien, c'est la grande table d'Olivia Gesbert.